Vous êtes sur RTL.
RTL Midi,
le 12h,
Antoine Cavalleroux, Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. RTL Midi, c'est parti. 2h30 d'informations, bien sûr, mais aussi d'opinion avec vous jusqu'à 14h30. Sachez-le, Pascal Praud sera de retour lundi. C'est vrai qu'il aurait adoré parler du roi Pelé avec vous, mais on va le faire, bien évidemment. Vos souvenirs de Pelé, les vôtres, ou peut-être d'ailleurs ceux de vos parents, car on va convoquer les années 60, les débuts des années 70. Tiens, ce 28 avril 63. France-Brésil, les journaux titreront le lendemain. France 2, Pelé 3. C'est incroyable. Fleury Dinalo, qui avait marqué pour les Bleus et était sorti bras dessus avec Pelé. Eh bien, la légende de Gerland, eh bien, Fleury Dinalo sera avec nous à 13h. On vous attend en tout cas au 32-10 pour parler de Pelé, mais aussi de l'ensemble de toute l'actualité de cette fin d'année et ce que nous réserve la prochaine. Le 32-10 est fait pour vous. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous. Bonjour Antoine Cavalleroux.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nos hôpitaux débordés par la triple épidémie, le plan blanc activé en Savoie et dans l'Ain. Plus que quelques heures avant la fin de la ristourne carburant, on se presse en station.
J'ai sorti exprès la voiture du parking. Là, elle n'est pas pleine en cœur parce que j'en mets pas mal là.
Ouais, jusqu'à la dernière goutte aujourd'hui. Hein.
À la dernière goutte.
La fin de la ristourne prévue pour le 1er janvier. Le dernier rush également dans les commerces avant le réveillon. Nous serons au Hall Paul Bocuse de Lyon. Une Saint-Sylvestre incroyablement douce. Des records de chaleur attendus demain pour le dernier jour de l'année.
Et cette semaine dans RTL Midi, un jour chez vous, on célèbre les héros de 2022.
Avec aujourd'hui un Girondin qui a sauvé des animaux lors des incendies de cet été. Juste après, tout ce qui change au 1er janvier, tout ce qui change pour votre portefeuille. À 12h20, RTL Midi, votre vie à la veille du réveillon. Comment concocter la meilleure playlist du 31. DJ est avec nous. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter midi la disparition de l'icône punk de la mode Vivienne Westwood. La question du jour sur RTL.fr. Pelé est-il le plus grand footballeur de tous les temps?
Eh bien voilà, vous pouvez nous le dire. Comme réagir à toute l'actualité, évidemment, vous débattrez à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10.
Et puis la météo avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour.
Bonjour à tous.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
C'est la journée de tous les excès aujourd'hui. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de douceur et attention au risque d'inondation sur le Finistère et le Morbihan.
Merci Anthony. Météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Le Brésil semble inconsolable. Un deuil national de 3 jours d'ailleurs débute pour le roi Pelé.
On savait la légende souffrante. Hein. Le cancer a fini par l'emporter hier. Il avait 82 ans. Le jour se lève au Brésil. Les Brésiliens qui se réveillent toujours sous le choc, ils pleurent la disparition de l'icône du football. Écoutez ces habitants de Santos, la ville des débuts de Pelé.
Pelé a toujours été une idole. Je ne l'ai pas vu jouer parce que je suis trop jeune, mais je l'ai toujours considéré comme un roi du football. C'est lui qui a diffusé l'image du Brésil dans le monde. Je crois qu'il va nous manquer terriblement. Personne ne va lui arriver à la
Je savais qu'il traversait une mauvaise passe, mais quand l'amour arrive, cela fait toujours mal. Hein. Il n'y aura pas d'autre Pelé, ni ici, ni ailleurs. C'est le fruit d'une époque. Certains trouvent que Maradona est meilleur, d'autres parlent de Messi. Mais quelqu'un d'aussi complet, avec un si grand palmarès, je crois que personne ne va y arriver. Il était parfait dans tous les domaines, de la tête, du pied gauche. Aucun joueur n'est comme ça.
Des habitants de Santos au Brésil, au micro RTL de Thierry Augier. Et partout dans le monde, les hommages pleuvent. Les footballeurs actuels comme Mbappé ou Messi, retraités comme Zidane ou Platini. Les dirigeants y vont aussi de leur message. Jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui, écrit Lula. Emmanuel Macron tweet, le jeu, le roi, l'éternité.
Eh oui, Pelé et ses 3 Coupes du Monde, ainsi que ses 1281 buts.
Alors ça, c'est le record homologué par la FIFA. Lui disait 1283, le Guinness Book en compte 1279. Le calcul, on le comprend, fait toujours débat, et on ne connaîtra sans doute jamais le chiffre exact, mais on voulait vous parler du millième but. Bonjour Baptiste Durieux.
Bonjour Antoine.
Car ce jour-là, ce 19 novembre 1969, dans l'antre du mythique Maracana, c'est de la folie pure.
Camino Pelé, à Porto.
Les 80 000 spectateurs du stade Maracana explosent et déferlent sur la pelouse. 23h23, 79e minute. Pelé avec Santos transforme un pénalty. Match interrompu, 20 minutes d'arrêt de jeu. Pelé est au milieu de la foule. Des photographes, journalistes et supporters, une marée humaine devant laquelle Pelé enfile un maillot floqué du numéro 1000 pour un tour d'honneur légendaire. 1000 buts, ce qui lui vaut une plaque à l'entrée du stade et un ballon d'or pur de 2 kilos. Et ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Pelé l'a attendu et calculé même. Il voulait marquer ce millième but au Maracana à Rio, ni ailleurs ni avant, à tel point qu'il a stagné à 998 puis 999 buts lors des rencontres qui ont précédé celle face à Vasco de Gama, donc au Maracana. Il a pris toutes les précautions possibles pour ne pas marquer, en remplaçant son gardien blessé dans les buts par exemple, ou en ratant l'immanquable une frappe dans le but vide qui est étrangement passée à côté. Pelé, c'est aussi l'art de choisir son moment.
Merci beaucoup.
Ce pénalty d'ailleurs, il est magnifique et on voit qu'il marquait un léger temps d'arrêt. C'était un des premiers à faire ça, hein, pour inscrire ses buts sur pénalty.
Exactement, il avait même la jambe qui tremblait. C'est lui-même qui a dit ça. Pelé qui a la jambe qui tremble, ça n'existe pas. Mais ce but-là était tellement important qu'effectivement, il est quand même humain.
Voilà, c'est un souvenir. Et ce sont des images absolument incroyables. On se demande comment les buts ont pu tenir lorsque cette foule est arrivée dans le stade. Évidemment, on va en parler, la disparition de Pelé, avec vous, mais aussi avec Jérôme Cazadieu qui sera en notre compagnie à 12h40, le directeur de la rédaction de l'Équipe. Il a interviewé Pelé il y a quelques années. C'était sa dernière interview pour l'Équipe. Et puis dans les auditeurs ont la parole, on sera avec le petit prince de Gerland, l'ancien bleu Fleury Dinalo. Il avait joué contre Pelé et puis il était même sorti du stade bras dessus avec lui.
La triple épidémie met l'hôpital à genoux. Le plan blanc déclenché en Rhône-Alpes. 10 établissements de Savoie et de l'Ain concernés. Des bras supplémentaires pour les urgences complètement débordés par l'afflux de malades. Il faut parfois attendre 10 heures avant de voir un médecin. Certaines opérations vont être déprogrammées. On y revient en longueur dans le journal de 12h30. Un pays de plus après l'Italie et les États-Unis autour de l'Espagne d'imposer un test négatif aux voyageurs arrivant de Chine. Annonce faite ce matin par la ministre espagnole de la Santé. L'explosion de l'épidémie en Chine inquiète le monde. Les Chinois qui vont pouvoir voyager à partir du 8 janvier. Et puis c'est un véritable carton. Avatar 2, la voix de l'eau. Plus de 6,87 millions d'entrées dans les salles françaises. C'est mieux que Top Gun Maverick. C'est donc le film le plus vu en 2022.
C'est certain, la Saint-Sylvestre sera incroyablement douce. On se dirige d'ailleurs vers de nouveaux records.
Logique, hein, me direz-vous, pour boucler 2022, l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. 23 degrés attendus demain à Dax dans les Landes, le sud où les températures débutent leur envolée aujourd'hui. Il va faire 20 degrés cet après-midi à Foix dans l'Ariège. Patrick Tégéro, vous êtes au marché de la ville pour RTL. Le thermomètre grimpe.
Oui, il fait 12 degrés sur le marché, mais on nous promet 20 degrés cet après-midi. Bertrand en profite.
J'ai un appartement, je suis une terrasse plein sud. Dans la semaine, je me suis mis à lire sur ma terrasse, ouais. Voilà, sans problème. Quoi. On voit quand même qu'il fait de plus en plus chaud, de plus en plus tard, et on voit qu'il y a de moins en moins de neige quand même sur les montagnes aussi.
Bertrand est professeur d'histoire-géographie. Il connaît les conséquences malheureuses sur l'économie du département. Par exemple, la principale station de ski ariégeoise a fermé dès lundi. Gilles, lui aussi, subit le climat. Il est agriculteur, il est venu vendre ses confitures sous la halle.
Moi, je vois cet été, j'ai pas eu beaucoup de fruits à cause de la sécheresse, quoi. C'est inquiétant, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas maintenant qu'il fallait agir, hein. C'était il y a 30 ans, hein, 40 ans.
Pour Noël, il faisait 26 degrés. C'était bien agréable pour Anne.
On s'est régalé de soleil, mais je souhaite que le froid arrive parce que c'est important qu'il fasse froid. Comme ça, on n'aura pas de moustiques cet été.
En attendant, avec l'effet de fun prévu pour ce week-end, le thermomètre pourrait monter au-delà de 25 degrés dans certaines vallées des Pyrénées.
Patrick Tégéro à Foix dans l'Ariège pour RTL. La météo, justement, on vous retrouve Anthony Cazemaret, qu'on entendait, hein, jusqu'à 20 degrés cet après-midi dans les Pyrénées, dans l'Ariège. La douceur continue.
Oui, c'est parti, hein, pour cette hausse qui va nous emmener jusqu'au début 2023. Cet après-midi prévoyait déjà 9 degrés à Langres, c'est quand même 4 degrés au-dessus de la normale, 11 à Strasbourg, 13 à Paris, à Lille et à Brest, 15 degrés à Clermont-Ferrand, 16 à Marseille, 18 à Bordeaux, 21 degrés à Biarritz et Tarbes, et ponctuellement plus, donc près des Pyrénées. Pyrénées. Douceur qui va aussi s'accentuer la nuit prochaine, puisqu'au réveil demain matin, on ne relèvera pas moins de 14 degrés à Paris, très souvent entre 10 et 14 degrés au réveil sur tout le pays demain.
Oui, mais attention à la pluie et au vent dans l'ouest.
Oui, des pluies qui sont en train de gagner là les régions de l'est pour la première salve, mais une autre arrive par la Bretagne, et donc Météo France a placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange pour un risque d'inondation et risque de crue dans le Finistère pour la Laïta et l'Odet. Soyez prudents, beaucoup de pluies attendues tout ce week-end en Bretagne, et donc les pluies vont concerner aujourd'hui les deux tiers nord du pays. Personne ou presque ne sera épargné, avec de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h ponctuellement près de la Manche, 70 dans les terres de toute la moitié nord, et puis une petite frange à l'abri de ce temps perturbé, le Midi Toulousain, le Pays Basque, les Pyrénées ainsi que la Côte d'Azur et l'Est de la Corse. Mais il y aura même quelques nuages, voire quelques averses sur l'ouest de l'île de Beauté et des entrées maritimes sur le golfe du Lion.
A tout à l'heure, Anthony. Et puis un mot, si vous nous écoutez toujours sur les grandes ondes, vous le savez peut-être, à partir de lundi, RTL va cesser d'émettre via ses antennes. C'est pour réaliser des économies d'énergie. Nous étions les derniers à le faire encore. Mais rassurez-vous, il existe plein de solutions. L'AFM, évidemment, en DAB+, si votre radio est équipée, mais aussi votre téléphone avec l'application RTL. Toutes les explications, le mode d'emploi sur RTL.fr. Bref, nous serons toujours là à vos côtés.
Et comment ? Il est 12h10.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous. Et vous le savez, cette semaine, on était avec les héros de 2022.
Et on part en Gironde ce vendredi. La Gironde dévorée par les flammes l'été dernier, près de 20 000 hectares partis en fumée et des dégâts considérables pour les forêts, mais aussi pour les animaux sauvages ou domestiques. Un homme a tout fait pour leur venir en aide, pour les sauver. Denis Grandjou l'a rencontré à Landiras.
Oui, Patrick Meung dirige le parc animalier du Sud Gironde depuis longtemps. Il héberge à Landiras des animaux abandonnés à qui il donne une deuxième chance. On croise dans son parc des lamas, des chameaux, des chèvres, des chevaux, des poneys dont il s'occupe avec des jeunes en insertion. Et quand le grand incendie de juillet s'est déclaré, il n'a pas hésité une seule seconde. Même quand Landiras a été évacué, lui, il est resté pour venir en aide à toutes celles et ceux qui avaient besoin de lui.
Ça a été du perroquet au chien, en passant par des chèvres, etc. De gens qui devaient partir et qui nous ont dit « Vous restez, est-ce que vous pouvez vous occuper de nos animaux ?» Donc moi, il m'arrivait d'avoir des téléphones à minuit, 1h du matin, où on a été chercher des animaux chez des particuliers. On rendait vraiment service. Alors nous, notre truc, c'est les animaux, mais on ne s'occupe pas d'animaux parce qu'on n'aime pas les gens. Donc de toute façon, on rencontrait les gens et on voyait bien qu'il y en a qui étaient quand même dans la panique, dans la panique complète. C'est vrai, de se retrouver avec la fumée qui commence à arriver dans des rues où il n'y a personne, où les maisons sont vides, etc., t'as l'impression d'être dans un téléfilm, quoi.
Et tous les animaux domestiques que Patrick a récupérés ont retrouvé leur maître sain et sauf quand les habitants ont pu regagner enfin leur maison.
Oui, les animaux domestiques, Denis, mais je crois que Patrick Meung ne s'est pas seulement occupé de ces animaux de compagnie, il est aussi intervenu sur les animaux sauvages.
Oui, et là, franchement, c'était encore plus périlleux pour Patrick et ses amis.
C'est retrouvé dans le feu, en fait, dans les endroits où personne n'avait le droit d'aller. Il y avait les barrages de police, etc. On avait des autorisations pour aller chercher les animaux blessés. Alors, après, il faut savoir aussi qu'il y a des endroits où il y avait 80 cm de braise. Pour donner un chiffre, nous, on a récupéré 27 chevreuils, 5 sangliers, 1 écureuil. Et ça, c'est les animaux qu'on a récupérés. Il fallait quelqu'un pour intervenir, donc on l'a fait. Je regrette pas. C'était compliqué parce que, de nouveau, officiellement, on n'a pas le droit de le faire. Les animaux sont les grands oubliés. Alors on a vu beaucoup de cadavres d'animaux morts, et quand on nous dit que beaucoup d'animaux sont partis, non, c'est ça c'est des légendes, c'est la catastrophe.
Et c'est pour cela que Patrick Meung vient de créer à Landiras, il y a quelques semaines, une brigade qui regroupe des bénévoles, un vétérinaire, des pompiers, pour être prêt si malheureusement un autre incendie venait à dévaster la forêt.
Parcours incroyable et grand cœur. Merci Denis Grandjou, correspondant RTL en Gironde.
Allez, on marque une pause. Il est 12h13. Vous êtes bien sur RTL. Dans un instant, on décrypte l'actualité et on va se projeter en 2023. Car il y a du changement dans l'air.
Antoine Cavallero, Vincent Parizeau.
RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi.
Un jour chez vous.
Et on se projette sur l'année prochaine, J-2 avant 2023, qui dit nouvelle année, dit changement, notamment au 1er janvier. Pour en parler avec nous, deux journalistes du service économie d'RTL, Marie Guerrier et Arnaud Touche.
Arnaud, commençons par un sujet crucial, l'énergie, avec le prix du gaz.
Oui, la facture augmentera de 15% en moyenne dès le 1er janvier. Cela concerne tout de même 40% des ménages abonnés au gaz. Alors ce sont ceux qui ont souscrit bien sûr au tarif réglementé, parce que ceux qui sont au tarif fixe, bien sûr rien ne bouge jusqu'à l'échéance de leur leur contrat. L'augmentation moyenne de la facture de gaz, c'est environ 25 euros par mois. Ce serait tout de même 200 euros sans le bouclier tarifaire. Il y a aussi une deuxième augmentation, évidemment, l'électricité. Ça, ce sera plutôt le 1er février. Là, on est également sur 15% d'augmentation en moyenne sur la facture d'électricité. C'est à peu près 20 euros par mois pour les ménages.
Donc 20 euros pour l'électricité, 25 euros pour Exactement. Le gaz en moyenne, évidemment, par mois. On parle de l'essence avec l'indemnité carburant.
Oui, et vous avez surtout jusqu'à dimanche, 23h59, pour bénéficier de cette fameuse ristourne de 10 centimes par litre à la pompe. Ensuite, elle disparaîtra, tout comme la remise de 10 centimes supplémentaires, vous savez, chez Total Energy en ce moment,
ça où aussi,
ça fait
ça
20 centimes, supprimé. Effectivement, si vous allez dans une station Total Energy. Et le gouvernement mise, effectivement, désormais sur une aide beaucoup plus ciblée, sous la forme d'une indemnité carburant de 100 euros. Alors, c'est 50% des ménages les plus modestes qui vont en bénéficier. Et pour prétendre à cette aide, effectivement, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros.
Et ça, ça se fait avec une déclaration sur l'honneur.
Oui, effectivement, mais il faut aussi aller sur le site des impôts pour justement donner votre numéro fiscal.
Et on reparlera du prix des carburants dans le journal de 12h30. Marie Guerrier, du nouveau en 2023 pour nos impôts.
Oui, l'impôt sur le revenu va baisser grâce à l'inflation. Alors comment ça se passe?
Ça, c'est quand même...
Tous les barèmes sont révisés à la hausse, plus 5,4%. Cette hausse, elle est calculée à partir de l'inflation et elle s'applique à chaque tranche de l'impôt. Alors par exemple, dans la première tranche, actuellement jusqu'à 10 225 euros de revenus annuels imposables, on ne paye pas d'impôt. Eh bien, avec la révision du barème, ce sera jusqu'à 10 777 euros qu'on ne paiera pas d'impôt. Dans la tranche du dessus, le taux d'imposition à 11% s'applique aujourd'hui jusqu'à 26 070 euros de revenus imposables. Ça va passer à 27 478 et ainsi de suite pour toutes les tranches. Ça va permettre, même si on a gagné un peu plus cette année, de ne pas passer dans la tranche supérieure, voire de descendre dans la tranche du dessous. Le ministère de l'économie et des finances a fait des projections. Une personne qui gagne 2000 euros net par mois va faire une économie d'impôt de 200 euros. Et un smicard célibataire qui a bénéficié cette année de 3 hausses successives du SMIC, eh bien, il va rester non imposable. Alors que si la révision du barème n'avait pas eu lieu, ben, il basculait dans l'impôt avec 129 euros à payer au fisc. Et puis on peut noter que les contribuables qui font garder leurs enfants en dehors de leur domicile, ils vont bénéficier d'une déduction d'impôt plus importante. Vous pourrez déduire jusqu'à 600 euros de plus dans la limite de 1750 euros.
Bon, bah pour une fois que l'inflation a du bon, hein, on ne va pas forcément s'en plaindre. Tiens, et puis même si ce n'est qu'en octobre prochain, c'est important, ça va intéresser énormément de personnes, le calcul de l'allocation adulte handicapé va changer.
Oui, c'est ce qu'on appelle la déconjugalisation. Une personne handicapée qui vit en couple verra désormais son allocation calculée uniquement par rapport à ses revenus propres, ses revenus à elle, pas cumulés aux revenus de son conjoint. Avec cette réforme, 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur allocation augmenter de 350 euros par mois en moyenne, selon le gouvernement.
Et parlons à présent de notre vie quotidienne. Arnaud, le démarchage téléphonique, à quoi faut-il s'attendre pour 2023?
Ce sera très franchement un soulagement pour beaucoup d'entre vous, car vous allez pouvoir désormais identifier au premier coup d'œil si le numéro qui vous appelle est bien celui d'un centre de démarchage. À partir du 1er janvier, le numéro devra impérativement commencer par 0937, 0938 ou 0939. Ah. Les démarcheurs ne pourront plus vous appeler avec un 06 ou un 07 comme c'est le cas actuellement. Ce sera désormais interdit par la loi. Par ailleurs, fini le démarchage abusif. À partir du 1er mars, cette fois, le démarchage sera autorisé uniquement la semaine, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Fini les appels intempestifs après 20h au week-end. Fini aussi le fameux compte personnel de formation. On ne pourra plus vous contacter par tous les moyens. Téléphone, mail, réseaux sociaux, c'est désormais terminé. Ouais. Le compte revenant s'expose à une amende de 75 000 euros et jusqu'à 375 000 euros pour l'entreprise.
Donc, quand on verra s'afficher 0937 ou 0938 ou 0939...
C'est un centre d'appel et vous le saurez.
On saura à quoi s'attendre. Et puis Marie Guerrier, la fin du bon vieux timbre rouge.
Eh oui, à partir du 1er janvier, la Poste ne vendra plus de timbre rouge pour les envois urgents avec distribution le lendemain. Un envoi urgent, ce sera quand même possible, mais la lettre rouge devient électronique. Il va falloir aller sur le site internet de la Poste, laposte.fr. Il faudra rédiger son courrier ou télécharger un document qu'on veut envoyer. Vous avez jusqu'à 20h pour que ce courrier soit distribué le lendemain dans la boîte aux lettres de votre destinataire. Comment ça va se passer? Le bureau de poste le plus proche du destinataire va imprimer le courrier, le glisser dans une enveloppe où il figure le dessin d'un timbre rouge et donc confier la lettre au facteur. Pas de transport en avion, pas de transport en train, une lettre électronique plus écologique, dit La Poste. Alors, à ceux qui s'inquiètent de la confidentialité, vous ne le savez peut-être pas, mais les facteurs prêtent serment. Déjà, actuellement, l'impostier prête serment, il s'engage à respecter le secret de la correspondance et des informations dont il dispose. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou qui ne sont pas équipés, eh bien, on pourra faire tout ça au bureau de poste. On se présente et là, il y a un agent qui va vous aider soit à rédiger votre courrier sur la borne, soit il va scanner ou photographier votre document qui sera donc envoyé au bureau de poste le plus proche de votre destinataire pour être mis sous pli.
Merci Marie Gaillet, on a tout noté, merci Arnaud Touche également, et sur ces changements annoncés vous avez peut-être envie de réagir, on vous attend au 3210 si vous le souhaitez. Dans un instant, ce sera RTL Midi Votre Vie. On est avec un DJ. Bah oui, on a fait les choses bien quand même. Sylvain Diem, c'est avec nous et il va nous aider à composer notre playlist pour le 31 au soir. À tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
RTL Midi jusqu'à 13h.
Ce qui rend un bif.
RTL Midi
Votre Vie.
Et Votre Vie, ce soir, ou plutôt demain soir. Ce sera ça.
Last night a DJ saved my life.
Eh oui, parce qu'un réveillon réussi, c'est souvent également une bonne playlist, du bon son, comme on dit aujourd'hui. La sélection qui fera danser vos invités, mais voilà, comment faire plaisir à tout le monde, comment séduire le plus grand nombre. Sylvain Diem, ça a bien voulu abandonner quelques minutes, c'est Platine. Bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Je vous présente, vous êtes un DJ vedette en France, mais aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, je crois même que vous formez de futurs DJ à Poitiers, c'est ça?
Exactement, je suis formateur à l'UCPA à Poitiers, qui est une école de DJ.
Alors Sylvain, une playlist qui rassemble, c'est quoi? C'est plusieurs styles musicaux, c'est un subtil mélange entre classique et nouveauté?
Ben, c'est exactement ça. En fait, sur ce type de soirée transgénérationnelle, on est obligé d'aller chercher des repères en fait, à toutes les générations. Donc l'objectif, plus la tranche d'âge est large, est d'aller chercher des morceaux qui vont aller peut-être plus loin, mais aussi plus récemment. Et le repère, c'est vraiment la chose la plus importante dans ce type de soirée, parce que les gens ont besoin de se repérer, de reconnaître des choses pour pouvoir s'amuser.
Ça veut dire des tubes? Ça veut dire des titres que tout le monde connaît?
Ça veut dire des titres que tout le monde connaît, mais pas que, parce qu'on ne peut pas faire toute une soirée avec que des tubes. Et il y a d'ailleurs quelque chose que les gens ont tendance, une erreur en tout cas, je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais que les gens ont tendance à faire, c'est de penser à un tube et de vouloir le jouer tout de suite, ou de le diffuser tout de suite, et d'oublier que la soirée peut être un petit peu plus longue. On est sur un réveillon du 31, ça va se prolonger un petit peu dans la nuit, donc si on envoie tous les tubes dès le début, il va en manquer derrière.
Je crois que vous avez préparé votre top 3 des tubes qui marchent à chaque fois. On peut peut-être écouter.
Exactement, oui.
Alors, ça commence par quoi?
Alors, le premier qui est plus... Voilà, ça c'est dans les tubes de 2022.
Ouais.
C'est un des morceaux qu'on a le plus entendu, même dans le monde, et beaucoup en France, toutes radios confondues, tous médias confondus. Et c'est pour moi un des morceaux, une des cartouche, comme on dit, qui fait que ça va danser forcément, le morceau d'Harry Styles.
Harry Styles.
Exactement.
Donc ça marche à tous les coups, plutôt pour un public, on va dire, plutôt jeune, non?
Voilà, ça c'est vraiment les morceaux qui ont fonctionné cette année et qui fonctionneront pour un public plutôt jeune.
Vous en avez deux autres?
Oui, on a celui-là. Ça va, par exemple.
Voilà.
Ça, c'est Koons.
Exactement.
Ouais. Mais on mène un peu à l'oreillette.
Exactement. Et ça, pour le coup, c'est un morceau qui va fonctionner vraiment sur toutes les générations, parce qu'il y a plein de repères disco dans ce morceau, même s'il est très récent, qu'il est de cette année. Ça, c'est un carton à coup sûr.
Et le troisième?
On prend un classique.
Oh là là, oui. Ça effectivement, ça va faire un plaisir aux plus âgés, parce que c'est un vieux classique d'Elton John revisité. Il est en duo, Elton John.
Avec Dua Lipa, et c'est un remix de Pno, voilà, pour citer tout le monde. Et effectivement, ça va parler aux personnes qui ont connu le morceau original et aux plus jeunes.
Je crois que Vincent a envie de classique.
Alors oui, bah, je sais pas.
Parce que, mais il y a aussi un top 3 des classiques.
Alors allons-y.
Alors le premier.
Ah bah oui, bien sûr. Alors ça aussi, ça marche.
Voilà, à tous les coups, quel que soit le public, quelle que soit la soirée, quel que soit le contexte.
Les Black Eyed Peas.
Exactement, avec David Guetta. C'est la cartouche qu'on garde toujours un petit peu sous le coude en se disant...
Ouais, si à un moment problème. Ça mollit un peu, on va toujours leur mettre les Black Eyed Peas. Ça marche à tous les coups. Un autre peut-être alors?
Exactement.
Alors là, oui, alors là aussi, on fait l'unanimité avec ça. C'est transgénérationnel là-bas.
Je vous vois bien danser le rock, Vincent.
Oui, alors sur Gimme Gimme, c'est pas facile de.
Si vous pouvez suivre.
Oui, oui, ça c'est sûr. ABBA, bon.
Intemporel, le disco, tout le monde connaît. Les plus jeunes danseront dessus, les plus anciens aussi. Carton à coup sûr.
Numéro 3. Alors on danse.
Ça c'est plutôt pour vous non cher
ma ami. Génération Stromae oui ouais. Tout à fait, mais vous connaissez aussi
oui
Vincent.
Mais bien sûr Stromae évidemment. Est-ce qu'on peut faire confiance aux plateformes, parce que les plateformes musicales elles proposent des compilations, des playlists
notamment pour le réveillon.
Exactement. Alors on va retrouver beaucoup de gros classiques, mais ce que je conseille toujours c'est d'aller chercher le petit repère, le petit morceau que vos amis vont connaître, celui qui va vous permettre de pouvoir vous rappeler des souvenirs, parce que la musique c'est aussi ça, c'est se rappeler des moments qui ont marqué la vie de chacun.
Peut-être se rappeler de la Coupe du Monde. Bon, c'est pas très vieux.
Non, non, et ça, on peut imaginer que ça sera beaucoup joué demain soir un peu partout en France.
J'ai hésité d'ailleurs à le mettre dans le top 3, justement, en référence à l'épopée des Bleus très récente. C'est sûr que c'est un carton. Si vous le jouez demain dans votre soirée, ça va forcément fonctionner.
Bon, ça nous rappellera aussi cette finale perdue. Mais bon.
C'est quoi l'enfer du DJ? C'est de voir toutes les 5 minutes quelqu'un arriver en disant « Ah, il me faut ça tout de suite, immédiatement !»
Ça sent le vécu.
Effectivement, ça remonte un peu.
Combien de fois on vous demande en bande organisée, par exemple?
Ça par dépend soirée. Des soirées, mais c'est très très souvent. C'est vrai qu'il y a des morceaux comme ça qui reviennent tout le temps. On pourrait presque faire une liste des morceaux qui sont
c'est lesquels
les plus demandés. En bande organisée, en fait partie. Après, les morceaux du top, le morceau des Black Eyed Peas, par exemple, I Got a Feeling, est souvent très, très demandé. Après, en fonction des soirées, en fonction de la génération, ça peut aussi être de la chanson française, des morceaux de Céline Dion.
On parle pas beaucoup de variété, là, pour l'instant.
Non, c'est vrai.
Parce que Michel Sardou s'impose aussi souvent lors des mariages, lors des soirées de réveillon, non ?
Exactement, ouais. C'est des gros classiques qui peuvent faire danser. Alors, moins toutes les générations, du coup, parce que les plus jeunes l'ont peut-être beaucoup trop entendu et qu'il y a d'autres morceaux, mais c'est vrai que c'est toujours des morceaux qui fonctionnent en fonction de la tranche d'âge que vous avez à faire danser en face de vous.
En tout cas, il faut être résistant parce que lorsqu'on est le DJ du 31, on n'est pas couché très très tôt quoi. À partir de quel moment l'ambiance doit vraiment démarrer? Un peu avant minuit, j'imagine.
Ouais, l'idée c'est de commencer à allumer la mèche un petit peu avant minuit pour que les gens puissent être vraiment au top à minuit. Et après, ça peut durer très 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 longtemps jusqu'au petit matin en fonction de l'énergie que vont avoir les gens. Mais ouais, c'est.
Et à minuit, vous mettez quelque chose de spécial?
Des comptes
en général, oui, c'est ça. On fait un décompte qui est repris par les gens la plupart du temps. Et mon conseil, c'est de toujours mettre un gros tube derrière qui va faire que
tout le monde va arriver sur la piste.
Alors, et ça sera quoi votre premier tube de 2023 en exclusivité?
J'y réfléchis encore, mais
vous avez une petite idée?
Ouais, ça sera peut-être le gala dont on parlait il y a quelques secondes. Ah, parce que voilà, ça va rappeler des souvenirs.
Bien sûr, le gala, on l'a encore en magasin. Eh bien, j'espère que vous ferez la fête comme il faut avec un bon DJ à l'image de Sylvain Diems. Merci beaucoup d'être venu nous donner ces quelques petits tuyaux pour que la fête soit complète demain soir. Merci.
Merci beaucoup.
C'était évidemment RTL Votre Vie. Mais comme il est 12h29, on marque une micro-pause. Et dans quelques instants, le grand journal, la grande édition avec vous. A tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
RTL midi jusqu'à 13h.
RTL, s'informer ensemble.
Il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12-30.
Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, merci évidemment d'être fidèle à RTL et peut-être d'être à l'écoute depuis midi. Donc, 12h30, c'est l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Antoine Cavallero.
Le Brésil qui se réveille dans la douleur. La disparition de Pelé, à qui le football doit tout à jamais, le premier 3 Coupes du Monde glané, le seul à avoir accompli cet exploit.
Alors évidemment, on en parle dans un instant. On va aussi en parler à 1h20 avec Jérôme Cazadieu, le journaliste de l'équipe. Il a réalisé la dernière interview de Pelé pour l'équipe, c'était en 2014. Et puis, dès 13h, avec vous, on va pouvoir parler de Pelé. On sera avec Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland. Il a joué contre Pelé à 2 reprises, hein, avec l'Olympique Lyonnais, avec l'équipe de France. Évidemment, il nous en parlera. Et puis, une invitée surprise. Enfin, pas surprise, puisque je vais vous en parler. Mireille Mathieu. Et oui, parce qu'elle a très bien connu Pelé. Elle l'a vu à plusieurs reprises. Elle a fait des soirées avec lui. Ce sera tout à l'heure à partir de 13h, mais aussi avec vous et vos souvenirs de Pelé.
Dans le reste de l'actualité, la triple épidémie met l'hôpital à genoux. Le plan blanc déclenché dans 10 établissements de Rhône-Alpes. La fin imminente de la ristourne carburant. À quoi faut-il s'attendre à la pompe? Nous posons la question à un spécialiste du pétrole. Et puis à la veille du réveillon, les dernières courses RTL au milieu des étals des Halles Paul Bocuse à Lyon. Votre rendez-vous culture, laissez-vous tenter midi à 12h50. Aujourd'hui, la disparition de l'icône punk de la mode, Vivian Westwood. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, Pelé est-il le plus grand footballeur de tous les temps?
Ben oui, parce que peut y avoir débat aussi, hein. Di Stefano, Cruyff, Maradona, Platini, Zidane, Messi, il y a du monde quand même. Est-il le plus grand pour l'éternité? 32-10, évidemment, on sera ensemble jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal, mais d'abord un petit indice, Anthony Kazmarek.
On surveille le risque de fortes pluies et d'inondations sur le Finistère et le Morbihan, des pluies qui vont concerner tout le pays, d'ouest en est aujourd'hui, mais le tout avec beaucoup de vent et beaucoup de douceur.
Merci Anthony.
RTL Midi.
On retiendra évidemment ces trois Coupes du Monde, son sourire espiègle, son élégance magistrale. Et voilà, le fait qu'il a été sans doute le plus grand footballeur de tous les temps.
Pelé s'est éteint hier à 82 ans. Le Brésil en deuil national pour 3 jours. Hommage à la légende. 3 étoiles sur le maillot. 3 Coupes du Monde. Exploit inégalé. Le Brésil qui se réveille. Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
Qui se réveille sous le choc. Douleur immense, notamment à Santos, où sera organisée la veillée funèbre lundi.
Oui, parce que le Santos FC, c'était le club de Pelé. C'est à Santos qu'on voit Pelé une véritable adoration. Il y a d'ailleurs un musée Pelé avec des reliques pour les passionnés. Les crampons de Pelé, le maillot de Pelé, le ballon d'honneur que la FIFA lui avait remis en 2014. Et ce matin, les habitants de Santos ne parlent que de lui et ils racontent à notre correspondant Thierry Ozier.
Pelé fait partie de ma vie depuis que je suis le football. C'était en 1958, j'avais 5 ans. C'était le meilleur joueur de foot du monde, sans aucun doute.
Pelé sans qui Santos ne serait pas aujourd'hui aussi célèbre dans le monde entier, comme le reconnaît cette habitante qui a croisé plusieurs fois le joueur.
Il a projeté notre ville vers le monde. Cela a été très important. J'ai réussi à le voir jouer. Je l'ai croisé plusieurs fois dans la rue pour prendre des photos, pour signer des autographes. Il a toujours été très sympa. Il a toujours été très bon pour notre ville, pour notre pays. Il a porté notre pays au top du football. Si nous sommes ce que nous sommes dans le football mondial, c'est grâce à lui.
Alors le club a rajouté sur les maillots au-dessus de l'écusson une couronne dorée, un club en discussion avec la famille pour retirer à jamais le numéro 10 pour que ce numéro soit cédé à la mémoire collective. Un maillot au numéro 10 que Pelé avait enfilé de 1956 à 1974.
Merci. C'est vrai que tous les enfants à l'époque connaissaient Santos. Alors personne d'autre ne connaissait Santos. Mais voilà, on connaissait plus Santos que Brasilia ou les autres grandes villes brésiliennes.
Du monde entier, les réactions qui afflue. Hommage des stars d'aujourd'hui, Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, des stars d'hier, Zidane, Platini, ou encore de Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France, auteur du dernier tir au but d'un match de légende face au Brésil. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde 86. Invité ce matin sur RTL, il souligne le génie du numéro 10 brésilien.
C'est quelqu'un qui a le génie. Vous savez, quand on a du génie en soi, quand on l'a avec cette facilité sur un terrain, dans ses prises de balles, dans cette orientation du jeu, sans cette vitesse, cette rapidité, ses passes qu'il avait lumineuses, voilà, il avait déjà dans l'anticipation avant de recevoir, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et c'était tellement facile avec lui, c'était tellement beau à voir. C'est quelqu'un qui m'a fasciné et puis qui a marqué vraiment les esprits de beaucoup de monde dans ce monde du football.
Et puis hommage aussi à des chefs d'État du monde entier, le Brésilien Lula, forcément. Le jeu, le roi, l'éternité, ça c'est signé Emmanuel Macron.
L'incroyable carrière de Pelé. Alors, on en parlait, hein, sa fidélité au Santos FC, le club de ses débuts. Et puis, ce tout dernier contrat aux États-Unis, au Cosmos de New York. Cela dit, jamais il n'a cédé aux sirènes de l'Europe.
Le vieux continent à ses pieds, hein, le Real Madrid, le Milan AC, mais aussi, et c'est moins connu, le Paris Saint-Germain, Baptiste Durieux. sérieux. L'affaire était quasiment bouclée, mais elle a capoté au dernier moment.
Exactement, nous sommes en 1971. D'un côté, nous avons le PSG, jeune club qui débarque tout juste en première division. De l'autre, Pelé, 30 ans, 3 Coupes du Monde dans le sac. Transfert qui paraît absurde et inenvisageable. Mais Paris a vent d'une rumeur, les problèmes financiers du club brésilien de Pelé, Santos. Alors le président parisien à l'époque, Guy Cressan, s'envole directement à Sao Paulo avec une proposition, 9 millions d'euros d'indemnité de transfert, 40% des recettes des matchs reversées à Santos et plus d'un million d'euros de salaire par an pour la star brésilienne. Pelé et Santos acceptent. Guy Cressan jubile même à la télévision française, à peu près certain que Pelé sera des nôtres, dit-il. Il manque une seule chose, la signature. Mais effectivement, finalement, tout tombe à l'eau pour le PSG. Santos, qui négociait une tournée aux États-Unis, constate que des investisseurs américains sont prêts à payer une fortune pour que Pelé vienne disputer quelques rencontres. Une somme qui suffit pour éponger les dettes. Le transfert de Pelé n'est plus d'actualité et d'ailleurs le roi se justifie lui-même lors d'un voyage à Paris.
Effectivement, il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité en cette occasion à porter les couleurs de leur club. Mais mon contrat avec Santos n'était pas terminé et j'ai toujours exprimé le désir d'achever ma carrière à Santos, le seul club que j'ai connu.
Et comme l'a dit Vincent, il a terminé au Cosmos.
Voilà, finalement, il n'est pas resté à Santos, il a fini à New York. Merci beaucoup, en tout cas, peut-être vous avez appris à cette occasion qu'il a failli jouer au PSG. Maintenant, il y a Neymar, qui a fait d'ailleurs un tweet très émouvant hier soir en hommage à Pelé.
Cette carrière fantastique, ce parcours hors norme de Pelé, on en parle en longueur après ce journal avec le journaliste de l'équipe, Jérôme Cazadieu.
Alors dans le reste de l'actualité, il y a l'hôpital au bout du rouleau. Le plan blanc a été déclenché dans 10 établissements de l'Ain et de Savoie.
La faute à la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite. Dans ces deux départements, Virginie Garin, bonjour.
Bonjour.
Les services d'urgence sont complètement débordés.
Oui, surtout en cette période de vacances. Il y a beaucoup de stations de ski dans la région et la population à soigner double en hiver. Il y a les jambes cassées ou les grippes et les Covid des touristes et des habitants. Donc depuis 10 jours, la situation est devenue très compliquée aux urgences. Le plan blanc est déclenché au moins jusqu'au 3 janvier dans les hôpitaux donc de Savoie et de l'Ain. Ça veut dire que sont repoussées des opérations prévues, mais pas urgentes, hein, pour libérer du personnel et des lits dans des services comme la chirurgie ou la rhumatologie et soulager les urgences.
Et ailleurs, Virginie, dans les autres régions, est-ce que l'hôpital tient bon ?
C'est un peu la même situation partout. Il tient, mais à quel prix ? Avec des personnels épuisés et le syndicat SAMU et Urgences de France qui nous l'a appris hier. Des premiers décès inattendus de personnes aux urgences, faute de prise en charge. Il y a 150 hôpitaux en France qui ont déclenché un plan blanc et partout, les soignants lancent un appel général à la population de faire attention, appliquer les gestes barrières. Vous avez peut-être l'impression que rien ne peut vous arriver, vous êtes en bonne santé, mais si vous attrapez un virus, vous risquez, dans les repas de famille ou les transports en commun, de contaminer des personnes fragiles qui, elles, peuvent se retrouver à l'hôpital.
Merci Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Et puis, après l'Italie et les États-Unis autour de l'Espagne d'imposer un test négatif aux voyageurs arrivant de Chine, l'annonce a été faite ce matin par la ministre espagnole de la Santé.
Il y a du monde à la pompe, hein. Faut dire qu'on vit les dernières heures de la ristourne de carburant.
Le 1er janvier, la remise gouvernementale de 10 centimes disparaît. Idem pour celle du groupe Total Energy, 10 centimes également. Mécaniquement, ça nous donne une hausse de 20 centimes des prix dans certaines stations, mais sur les marchés, le prix du pétrole semble se stabiliser. Philippe Chalmin, professeur émérite à Paris Dauphine et spécialiste du pétrole.
Le prix du baril a été ces dernières semaines et même ces derniers mois relativement raisonnable, puisqu'on est aux alentours de 80 dollars. Il n'y a pas de raison d'imaginer que le prix du pétrole va remonter très nettement, et au contraire même, on pourrait penser qu'avec l'embargo sur le pétrole russe, ce pétrole russe va devoir trouver son chemin sur les marchés mondiaux et ça pourrait même tirer les prix vers le bas. Certains, et j'en fais un peu partie, pensent que l'on pourrait, dans le courant du premier trimestre 2023, toucher les 70 dollars.
Philippe Chalmin au téléphone RTL de Julien Fautra. Et on rappelle qu'une nouvelle aide du gouvernement est prévue, 100 euros pour les travailleurs les plus modestes.
À l'heure du bilan 2022, un retour politique sur la présidentielle, parce que c'est la première fois qu'elle s'exprime sur sa cuisante défaite. Valérie Pécresse, elle fait le bilan de sa campagne ratée.
L'ex-candidate des Républicains prend la parole chez nos confrères du Figaro. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Et ce qu'on retient, c'est cette phrase, hein. Je m'en veux, j'aurais dû clasher avec Nicolas Sarkozy.
Oui, on avait fini par ne plus attendre les confidences de l'ancienne candidate. Et ce qui ressort de ce long récit, c'est vraiment cette rancœur qu'elle a encore aujourd'hui envers l'ancien président Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez qu'il avait refusé de la soutenir publiquement avant le premier tour, avant finalement de soutenir Emmanuel Macron au second. J'aurais dû clasher avec lui, comprendre, lui rentrer dedans, mais je sais que si je l'avais fait, personne ne m'aurait soutenu, raconte Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, un peu mauvaise perdante, qui s'en prend aussi à ses anciens rivaux du Congrès, Xavier Bertrand et Éric Ciotti. J'aurais mieux fait de ne pas les calculer, de faire ma campagne, de tracer ma route, regrette-t-elle. Mais comme j'étais revenu à LR, j'étais obligé. Valérie Pécresse qui revient enfin sur son score catastrophique, 4,78%. Et le Pécresse-ton qui en a suivi, un 5 millions d'euros à trouver. En quelques jours, c'est elle qui a eu l'idée de cette collecte dès le lendemain de la débâcle, avant de s'envoler en Espagne avec son mari et de couper téléphone, loin des polémiques.
Elle n'a pas donné d'explication à ce meeting du Zénith, je crois,
non, complètement raté. Non, elle n'a pas donné d'explication. Elle l'avait fait pendant la campagne, expliquant qu'il y avait eu des problèmes d'audio. Elle regrette simplement les moqueries qui ont été faites et elle dit, en politique aussi, le ridicule, ça peut tuer.
Thomas Després du service politique de RTL a noté que le budget de 2022 a été validé hier soir par le Conseil constitutionnel. L'emploi répété de l'article 49.3 approuvé également par les sages.
Eh bien, on peut dire que le compte à rebours est lancé, hein, avant le réveillon demain soir, minuit.
Le menu est arrêté, c'est l'heure des courses. Frédéric Perruche, on se bouscule à Lyon, dans les fameuses Halles Paul Bocuse. 50 commerces et des étals de qualité.
Ah oui, on se bouscule, on se presse dans les allées étroites des Halles Paul Bocuse à la recherche des meilleurs produits. Et il ne manque pas ici si l'on se fie au panier bien garni d'Emmanuel en route pour un réveillon en Alsace.
Il y a de la Copa Corse, il y a de la rosette de Lyon bien sûr, il y a du Serrano, il y a la pancetta, puis une tarte praline de chez Jocteur.
Praline puis, de Lyon.
Lyon. Attention à la praline rose de Lyon. Des choses un petit peu exotiques qu'on s'offre pour les fêtes.
C'est le grand rush dans tous les commerces, comme chez ce poissonnier, Antoine Gelot, de la Maison du Rang.
Les produits phares, comme chaque année, les crevettes, les Saint-Jacques. Cette année, les gens aussi recherchent beaucoup de poissons entiers. Ils veulent peut-être revenir aux bases. Donc beaucoup de lotte, de turbo, de barre, de dorade. On a des homards, on a de la langouste, on a tous ces produits. C'est encore vivant, c'est dans le vivier. C'est vrai que c'est un plaisir, même les gens c'est attractif, ils viennent, ils regardent les homards qui bougent, qui se montent dessus, qui nagent, et c'est vrai que c'est un plaisir.
Et jusqu'à demain soir, les 56 commerces des Halles de Lyon devraient écouler quelques 80 tonnes de produits de qualité.
Toujours incroyable ces Halles Paul Bocuse à Lyon.
C'est fin.
Merci à Frédéric Perruche, le correspondant RTL à Lyon. Le temps, on vous retrouve, Anthony Kazmarek, de la douceur, ça, on le dit, on le répète, mais aussi beaucoup de pluie, beaucoup de vent cet après-midi.
Et on surveille la situation sur le Finistère et le Morbihan, placés en vigilance orange pour un risque d'inondation et de crue, notamment dans le Finistère, sur la Laïta et l'Odé. Prudence, les pluies traversent tout le pays en plusieurs salles, donc il y a quand même des moments d'accalmie, mais là, les pluies, on les retrouve actuellement dans l'Est. D'autres vont revenir cet après-midi. Midi de la Bretagne au Val-de-Loire et concerneront à nouveau les deux tiers nord du pays. Seul épargné par ce temps très instable et agité, le sud de la Garonne, le midi toulousain, ainsi que le golfe du Lion, la côte d'Azur et l'est de la Corse, mais avec quand même beaucoup de nuages, beaucoup de vent partout, en bordement jusqu'à 100 km/h en rafale, mais aussi dans toutes les terres de la moitié nord jusqu'à 70 km/h en rafale. La douceur, toujours donc cet après-midi, 9 à 16 degrés en règle générale, mais des pointes entre 17 et 21 degrés dans le sud-ouest. Et puis, à quelques heures du réveillon, je ne résiste pas à l'idée de vous donner la fourchette des températures de demain après-midi, oui. On sera dans des records historiques, 13 à 17 degrés au moins sur la moitié nord, 15 à 21 sur la moitié sud et des pointes à 23, 24 degrés au pied des Pyrénées.
Vous imaginez la Saint-Sylvestre en chemisette.
Totalement dingue.
Un petit barbecue pour le réveillon, ça vous dit?
En décolleté.
Et en décolleté, évidemment. Ça c'est Monique Younes, la reine de la mode, vous l'entendez. On parlera d'ailleurs de Vivienne Westwood qui nous a quittés aujourd'hui. Mais celui, évidemment, qui nous a quittés et dont la planète entière parle, c'est Pelé. Et lui, eh bien, écoutez, il a fait la dernière interview de Pelé pour l'équipe. C'était en 2014. Le directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Cazadieu, est avec nous dans un instant.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi.
Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
He's gone! No!
but de Pelé, hein, voilà, évidemment. À l'époque, le roi Pelé s'en est allé, Edson Arantes do Nascimento, et la planète foot le pleure en rassemblant ses souvenirs, en célébrant la légende. Et pour en parler avec nous,
Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'Équipe, bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez rencontré, hein, vous l'avez interviewé, c'était en 2014, on va y venir, mais tout d'abord, on vous pose la question du jour sur RTL.fr. Pelé est-il le plus grand joueur de tous les temps? Votre réponse.
Bah, je pense que si on regarde tout ce qu'on a publié à la fois dans le journal, ce qu'on a écrit sur le site hier, évidemment c'est le plus grand parce que c'est le premier, parce que c'est le premier footballeur qui a une dimension mondiale, qui transforme son sport. Donc pour toutes ces raisons, c'est le plus grand. Après, il y aura toujours des gens pour rediscuter des capacités ou des compétences footballistiques. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de mélanger les époques. Mais de ce point de vue, sans Pelé, il n'y aurait pas eu de foot aujourd'hui. Donc de ce point de vue, c'est le plus grand.
Et le foot moderne, on peut dire qu'il a inventé certains gestes qui sont devenus des classiques dans le foot moderne. Aujourd'hui, ceux qui essaient de faire un lob sur le gardien de la moitié du terrain, ils se sont inspirés de Pelé?
Oui, bah, il y a énormément de gestes. Il avait une palette de gestes techniques assez incroyables, des inspirations géniales. Hein. C'est quelqu'un qui est le premier à avoir utilisé les grands ponts, laisser passer, comment dire, le ballon quand il est dos au but. Il était capable d'utiliser son pied droit, son pied gauche, sa tête. Il a joué avant-centre, il a joué sur les côtés. Après, il a su redescendre quand il avait un physique un peu moins explosif qu'à ses débuts, notamment, je pense, pendant la Coupe du Monde 1970. Donc, c'est un joueur qui savait tout faire. Donc, bien sûr, il savait faire des râteaux, il savait utiliser son corps, le mouvement. C'est un joueur qui
était inventé. Et ça, c'était nouveau, c'était quand même assez nouveau à l'époque.
C'était complètement nouveau, personne n'avait fait ça jusqu'à présent. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, il avait une vitesse extrêmement importante et sa vitesse s'alliait à sa technique. Donc, quelque part, il y a eu pas mal de réactions ces derniers jours, notamment la réaction d'Arsène Wenger qui disait que si aujourd'hui Pelé venait à jouer, comment dire, en 2022, bah, il serait titulaire dans n'importe quelle sélection au monde, quoi. Parce que c'est un joueur qui avait une très grande modernité à la fois technique et physique.
Jérôme Cazadieu, vous avez eu la chance de pouvoir interviewer Pelé, c'était en 2014, c'était la dernière du roi, la dernière interview pour le journal L'Équipe. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui?
Bah, en fait, ce qui était important, c'est que, en fait, nous, Pelé était le seul, je dirais, très très grand footballeur à n'avoir jamais reçu le Ballon d'Or, puisque Maradona avait reçu le Ballon d'Or d'honneur avant, et quelque part, il fallait qu'on répare une erreur. Donc, on lui a décerné un Ballon d'Or d'honneur parce que on estimait que ce Ballon d'Or d'honneur, c'était un moyen de récompenser sa carrière. Donc, quand on l'a vu, lui était très honoré parce que l'Europe a toujours été très important pour lui, même s'il a fait toute sa carrière à Santos au Brésil, et que finalement, il n'existait dans le monde que grâce aux Coupes du Monde et à la possibilité en fait d'être exposé à ce moment-là. Donc pour lui c'était une reconnaissance majeure et c'était l'époque où il y avait déjà le duel entre Messi et Ronaldo. Donc ça le replaçait au centre, je dirais, de l'échiquier, et je pense que c'est quelqu'un qui avait un ego aussi quand même très très important.
Pelé, il est aussi le symbole de l'explosion médiatique du football. La première Coupe du Monde en couleur, en mondiovision, c'était la Coupe du Monde 70, et toute la planète a vu à l'époque cette scène au stade de Mexico, le stade Aztèque. Aztec Pelé porté en triomphe. Il a mondialisé le football. Avant, ce n'était pas le cas.
Non, c'était pas le cas. Il y a peu de sportifs, peu de champions dans l'histoire qui ont été capables de transformer leur sport. Je dirais qu'en comparaison, il y a peut-être Michael Jordan avec le basket, parce que il a été capable par ce qu'il incarnait, par son jeu, par ses expressions, par ce qu'il représente. Hein. Il faut quand même jamais oublier, voilà, que c'est un joueur noir qui était admiré par un public blanc dans les années 50, 60 et jusqu'en 70. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, il faut mettre aussi le contexte du Brésil à l'époque. Le Brésil, c'est une dictature, hein, de militaires. Vous avez
on lui a un peu reproché d'ailleurs sa passivité face à la dictature militaire.
Tout à fait. Vous aviez en fait deux stars à l'époque. Hein. Vous aviez d'un côté Pelé, de l'autre côté vous aviez Garrincha. Pelé. Voilà, Garrincha, c'était un peu le joueur du peuple. Hein. C'est celui qui avait une jambe plus courte que l'autre, qui avait des histoires d'amour dingue avec la plus grande chanteuse brésilienne, qui a fini dans la rue. Là où Pelé, c'était celui qui a toujours été du bon côté du manche, je dirais, pour les Brésiliens. Ouais. Même si il a fait des choses qui sont extrêmement importantes. Je pense que pour la reconnaissance, notamment des athlètes noirs, il a été fondamental parce qu'il a incarné quelque chose. chose. Il était beau, les gens le trouvaient tous beau, beau à voir jouer, beau à entendre, etc. Donc de ce point de vue, je pense qu'il a fait beaucoup, même si il est quand même décrié au Brésil.
Ouais. Ouais. Un dernier mot, parce qu'on a une liaison qui est un petit peu difficile. Il est aussi le symbole d'un football disparu aujourd'hui au profit du réalisme. C'est ce qu'on a appelé le football samba, joyeux, offensif, insouciant. D'ailleurs, quand son club de Santos faisait des tournées, c'était un peu les Harlem Globetrotters.
Ah bah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'était vraiment les Harlem Globetrotters. Il faisait des tournées en Europe. Vous payez, les clubs européens payaient pour le voir venir. Il a joué au Parc des Princes plusieurs fois. Il a affronté un certain nombre d'équipes françaises, justement parce que on ne pouvait pas le voir, en fait. On le voyait en gros tous les 4 ans pendant la Coupe du Monde. On avait quelques images, c'est surtout à partir de 70. Donc Pelé, c'était quelqu'un qui était un mythe quelque part. Vous aviez des extraits, vous aviez quelques images qui étaient sélectionnées, mais à aucun moment vous aviez la possibilité de le voir.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. C'était un mythe, et il y en a qui ont joué contre ce mythe. C'est Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland. Il a joué avec l'équipe de France et avec l'Olympique Lyonnais contre Pelé. Il était même quasiment devenu son ami. Son ami également, Mireille Mathieu. Bref, Fleury Dinalo, Mireille Mathieu, ils seront avec nous à 13h. Et j'espère bien qu'on va pouvoir parler tous ensemble du roi Pelé au 32-10.
Et juste avant 13h, laissez-vous tenter midi avec Monique Younes pour revenir sur la disparition d'une icône de la mode, icône punk, Vivienne Westwood. À tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi, c'est tout simplement la culture qui vient s'installer à table. Et aujourd'hui, on rend hommage, évidemment, on en a peu parlé avec la disparition de Pelé, qui rend hommage à l'une des grandes figures de la mode britannique, mais ça va aller au-delà, évidemment. C'est avec vous, Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Et il s'agit, évidemment, de Vivienne Westwood, qui est morte hier, jeudi, à l'âge de 81 ans, entourée de sa famille. On la surnommait l'enfant terrible de la mode.
Oui, on l'a surnommée aussi l'impératrice du punk, tellement ses créations étaient excentriques, et parce qu'elle est née avec le punk, Vivienne Westwood. Il faut remonter au début des années 68, au début des années 70. Vivienne Westwood, qui vivait avec son mari dans le centre de l'Angleterre, divorce et part étudier la mode à Londres. Elle rencontre son deuxième mari, Malcolm McLaren, et ensemble, ils ouvrent une boutique au 430 King's Road à Londres, où ils vendent des stocks de vêtements rock'n'roll. Et ils appellent la boutique « Sex » parce que Malcolm McLaren produisait ce groupe de musique alternative.
C'était le producteur des Sex Pistols.
Les Sex Pistols, évidemment. Et Vivienne Westwood va créer les costumes de scène des Sex Pistols, et c'est le commencement de la mode punk, qui est née dans les sons déchirants, vous l'entendez, et les tissus déchirés. En 2020 d'ailleurs, à Lyon, on a pu voir les premiers vêtements déchirés imaginés par Vivienne Westwood et qui ont tant choqué l'establishment anglais. Ils étaient exposés au musée du tissu par Aix-Clermont de Monteil.
Ce t-shirt qui présente une croix gammée, un Christ inversé et les paroles anarchistes des chansons des Sex Pistols. Et tout ça est imprimé sur une toile qu'on appelle en Angleterre cheesecloth. Vous voyez cette espèce de toile de coton très lâche, c'est mal cousu, il faut mettre des épingles pour tout faire tenir. Les pantalons entravés qui relèvent du bandage, des grands pulls à mailles lâches avec des trous. Mais c'était vraiment du bric. C'était pas du tout de la haute couture à cette époque-là. Elle a réussi à cristalliser dans un look toutes les revendications et le mal de vivre de cette jeunesse urbaine anglaise des années 70.
Avec des épingles pour les faire tenir, d'où l'épingle à nourrice d'ailleurs, qui est devenue un symbole de l'imagerie punk.
Extraordinaire.
Et alors, elle voulait rompre avec la génération Peace and Love, bref, les babacool, qui régnaient encore dans
bien
les années
sûr,
70.
Et on peut dire qu'elle a réussi. Alors, elle faisait des t-shirts porno, des tenues sadomaso, des cols en vinyle, des escarpins talons aiguilles rouge vif, alors que le rouge n'était porté jusque-là que par les prostituées. Donc, j'imaginais la stupéfaction des gens. Et quand les Sex Pistols, en 1977, chante.
C'est
Queen.
God Save the Queen. Westwood dessine son célèbre t-shirt arborant le visage défiguré d'Elisabeth II, une épingle de sûreté pour fermer la bouche de la reine. Les yeux de la reine étaient recouverts de lettres découpées dans un journal dans le style une lettre d'otage. La reine ne lui en a pas trop voulu puisqu'elle va la nommer officier de l'Empire britannique en 1992. Et là, que va faire Vivienne Westwood à sa sortie de Buckingham? Alors qu'elle portait une robe grise très très stricte, elle va faire virevolter sa jupe devant les photographes qui vont découvrir médusés qu'elle ne portait pas de culotte.
Ah, et ben, punk devant la
jour,
reine,
vous vous rendez compte, elle vient sans culotte voir Elisabeth II. Punk un jour, punk toujours.
Punk toujours. Et à partir de quand on va voir Vivienne Westwood défiler à Paris?
Alors son premier défilé, 81 à Londres, et c'est en 82 qu'elle va défiler à Paris, une collection nommée Pirate, qui va la lancée en France et puis dans le monde. Les Français vont adorer cette mode quand même complètement déjantée, présentée par des mannequins aux dents en or, à la crinière rousse flamboyante, comme l'était Vivienne Westwood. Les Walkman étaient vissés sur les oreilles, ils dansaient sur des musiques ethniques. Et puis, défilé après défilé, Westwood va prouver qu'elle possédait une connaissance historique très poussée de la mode et du vêtement. Sa mode avait beau être subversive, elle s'inspirait beaucoup des vêtements anciens. Par exemple, à plusieurs reprises, elle va réinterpréter, par exemple, la garde-robe de Marie-Antoinette pour faire des robes absolument fabuleuses. Et elle avait aussi un rapport fétichiste aux souliers. Elle était toujours juchée sur,
sur des
talons
des
20 cm. Vous vous souvenez de la chute de Naomi Campbell quand elle est tombée effectivement avec des talons de 27,7.
C'était pas fait pour marcher. Hein, voilà, ça c'est clair. Un dernier mot parce que le temps nous presse, Monique. Il ne faut pas oublier quand même un aspect parce que c'est l'une des premières grandes créatrices de mode à avoir, alors pas fait de la politique, mais utilisé la mode comme tribune politique.
Ah ben, sa mode était éminemment politique. Elle est restée jusqu'au bout une militante activiste affichant sur les vêtements qu'elle crée des slogans pour les causes qu'elle défend. Il y a eu l'environnement d'une part, l'écologie, et après les liberté de l'autre. Elle a été mais vraiment un soutien à Julian Assange extraordinaire. Mais la dernière fois qu'elle a été ovationnée sur un podium, c'était à Paris en mars dernier, et c'était un grand moment de la voir, les cheveux gris, noués dans un chignon élégant, saluer le public, et on se doutait pas que c'était pour la dernière fois.
Vivienne Westwood qui nous a quittés hier, icône punk également, elle aussi, elle qui les habillait tous ces punks. Merci beaucoup Monique Younes, j'imagine qu'on va en reparler tout au long de cette journée de la disparition de Vivienne Westwood. Il est 13h.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vincent Parisot.
Voilà, chacun parle.